Il n'y a pas de doute pour moi. Comme c'est mardi aujourd'hui, ben c'est agréable pour moi de revenir au travail, surtout parce que c'est la discussion du mardi avec François Paquette dans l'avant-match. Salut François.
Salut Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
T'es-tu donné le goût d'aller voir du hockey à Vegas?
Non, mais je trouve ça intéressant parce que je t'ai suivi un peu via Twitter durant ton voyage, puis je voyais que c'était pas mal plus dispendieux aller voir Elton John qu'aller voir les Golden Knights, mais je trouve ça quand
même
intéressant.
Mais c'est quand même cher, les billets, François. C'est beaucoup plus, je te dirais, 180, 200 que 69 ou 79.
OK.
Le prix des billets est quand même très dispendieux pour une nouvelle équipe. Et il n'y a pas beaucoup de billets disponibles. Donc, tu peux pas te dire, oh, c'est pas grave, je vais m'acheter un billet à 28$ puis je vais descendre comme certaines années en Floride ou en Caroline ou en Arizona. Tu peux pas dire, l'aréna est plein, c'est tout le temps 18 000, là. Fait que c'est. Je comprends ton parallèle avec Elton John parce que ça, c'était démesuré, mais c'est pas si abordable que ça d'aller voir les Golden Knights. Par contre, non. C'est très plaisant.
Puis, tu sais, dans ton ton de voix, de la manière que tu racontais ton voyage, puis de la manière que tu as aimé l'expérience, le spectacle, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est fascinant, Dan, de voir le nombre de personnes, puis tu sais, ça doit être vrai dans ton entourage, puis tous les gens qui nous écoutent, de gens qui ont décroché du hockey cette année, complètement. Tu sais, il y a les fans du Canadien, puis je peux très bien les comprendre, le spectacle n'est pas à la hauteur, puis tu viens fâcher plus souvent qu'autrement, mais on dirait que pour bien des gens, mettre un petit peu le hockey de côté à ce moment-là. Fait que, tu sais, t'entendre parler comme ça, justement, de cette belle histoire-là, du fait que ça va probablement non seulement continuer à marcher, mais que ça va s'en aller, que les billets vont être de plus en plus difficiles à obtenir. Je trouve ça quand même intéressant parce que, évidemment, Gary Bettman a pris beaucoup de décisions audacieuses depuis le début de son règne.
Oui.
Il y en a beaucoup qui sont controversées. Il a certainement fait des mauvais coups, mais il faut admettre qu'il y a certains bons coups. Puis, tu sais, peut-être que Vegas va se retrouver dans cette liste-là dans 10-15 ans. Puis peut-être que Seattle va se retrouver dans cette liste-là aussi dans 10-15 ans. Mais je trouvais ça intéressant de la façon dont on en parlait. Comme quoi, tu sais, c'est pas une histoire comme en Arizona, là, où que les gens suivent pas le club. Là, t'as du monde, t'as de l'ambiance, puis c'est sûr que les résultats de l'équipe aident aussi à ce que la première année soit plus joyeuse que prévu. Là.
François, dimanche matin, j'ai croisé un homme de Vegas à qui je me suis mis à parler de hockey, puis je lui disais, l'équipe de hockey, en fait, je sais pas trop, je sais pas pourquoi le hockey est venu sur le sujet, peu importe, j'ai dit, est-ce que vous êtes allé au match? Il dit, oui, absolument. Il dit, mon frère a des billets de saison, il en a acheté 8 pour sa compagnie. J'ai dit, OK, parfait. Mais il dit, au début, son plan, c'était de donner ça à ses clients, un, pour faire de la business, pour récompenser ses clients, augmenter son chiffre d'affaires et faire découvrir le hockey à ses clients. Mais il dit, le problème, c'est que les gens de Vegas trippent tellement sur le hockey, l'équipe est tellement bonne et c'est tellement le fun d'aller à l'aréna que depuis le début de l'année, le frère du monsieur à qui je parlais, qui a une femme et deux enfants, le monsieur à qui je parlais a une femme et deux enfants, si tu me vois venir, ça donne 8, ils vont au hockey. Les deux frères avec les femmes et les enfants, les 8 biens, ils n'ont pas donné ça aux clients ou à peu près pas.
Ah, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Je veux dire, quand le show est bon, puis écoute, ça s'applique à n'importe quel sport, les gens s'attachent, puis les gens veulent faire partie de la fête. La seule chose, Dan, qui me fascine un peu, c'est que, tu sais, si les choses s'étaient déroulées comme prévu à Vegas, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas fait les séries, on parlerait d'un club vendeur là, dans 6 jours, puis dire, regarde, il faut échanger quelques vétérans qui ne reviendront pas.
David Perron.
Exactement. Puis, tu sais, peut-être James Neal, puis des gars comme ça, puis on va regarnir notre banque. Mais là, c'est impossible que tu puisses le faire, même si ça va probablement te faire mal dans quelques années, mais t'as pas le choix, il faut que tu continues. Je voyais, il y avait un gars justement sur Twitter cet après-midi qui tweetait son billet, qui avait mis 50$ que les Golden Knights allaient gagner la Coupe Stanley avant même le repêchage l'année passée.
Ça 200 contre 1?
Ouais, je pense que ça donnait 7000. Fait que c'est à peu près 150 contre 1.
OK, là, ils sont à 4 contre 1. J'ai regardé hier sur le tableau aux Caesars.
Puis, moi, je change pas d'idée, Dan, que j'y crois pas qu'ils vont se rendre jusqu'au bout.
Non.
Mais puis même que j'ajoute souvent qu'il y a probablement bien des clubs dans l'Ouest qui espèrent affronter Vegas en première ronde sans rien leur enlever. C'est peut-être le plus beau match-up que tu peux avoir. Donc là, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, mais il n'y a jamais personne qui avait prévu ça. Puis je pense que George McPhee, Gérard Gallin et compagnie ont fait un travail fantastique. Je ne sais pas jusqu'où la lune de miel va se poursuivre sur la glace, mais juste ce qu'on fait jusqu'ici, c'est tout simplement phénoménal.
Es-tu comme moi, tu vas souhaiter qu'ils gagnent la première ronde?
Ça dépend contre qui. Okay. Ça dépend contre qui. Okay. Je suis vraiment partagé, puis je suis content de leur succès. Puis tu sais, je l'ai dit, Dan, souvent, que mes prédictions par rapport aux Canadiens puis aux Golden Knights n'étaient pas très bonnes. Fait qu'aujourd'hui, je regarde ça aller, puis je me dis, je veux que les Knights se placent bien pour les séries, mais ça dépend vraiment de l'affrontement. Mais tu sais, côté spectacle, j'ai pas vu une tonne de matchs, mais les matchs que j'ai vus, c'est un club qui est fort intéressant.
Absolument. Ils patinent.
Il y a quelques joueurs dont on parle pas beaucoup qui font du bon travail là-bas.
C'est ça. C'est une équipe qui patine. Et je pense que leur plus grande force, et là, évidemment, je vais employer un cliché du hockey, mais tu vas très bien comprendre. Dans les dernières années, pour nous expliquer les succès ou les insuccès d'une équipe de hockey, on nous a parlé beaucoup de jeu de transition. Et c'est une équipe qui a probablement le meilleur jeu de transition de la Ligue nationale actuellement. Et ça explique, peut-être pas à 100%, mais ça explique une partie de leur succès. François, dans ta Ligue à Pont-Rouge, là, puis je le sais, je l'ai vécu une fois, je suis allé, puis j'ai couru après la puck pas mal toute la game. Quand, moi, je joue ce soir à Saint-Romuald, OK? Si ce soir, je cours après la puck toute la game, là, d'après moi, à la fin, là, mon équipe va avoir perdu. Mais l'équipe qui joue contre Vegas, depuis le début de la saison, court après la rondelle tout le match, et Vegas est en contrôle du match. C'est pas l'histoire d'un gardien, Marc-André Fleury, qui a gagné 3 Coupes Stanley. Les tirs au but, ça finit 42-9, puis ils réussissent à gagner 2-1. C'est pas ça. Non seulement ils gagnent, mais ils sont en contrôle de chacun des matchs. Ça m'impressionne.
Oui, puis c'est sûr que en 2017-18, l'avantage que tu as aussi, c'est la façon dont on joue le hockey. Là. C'est très différent de ce qu'ont vécu les équipes dans les années 80-90, là, que ce soit les Sénateurs, les Ducks, peu importe les clubs d'expansion qui arrivaient. Le hockey était très différent, puis je pense que le repêchage d'expansion aussi était différent. On s'est retrouvé avec des équipes un peu moins talentueuses. Puis, tu sais, même dans le repêchage d'expansion, Dan, il y a certains choix là, des Golden Knights où tu disais, hey, moi, je suis pas sûr que j'aurais pris ce joueur-là exact. Dans telle ou telle exact. Situation. Je veux dire que William Karlsson est 30 buts, personne n'avait vu ça venir. Je pense que Jonathan Dimarcheseau, on savait qu'il pouvait être bon, mais moi, personnellement, je pensais jamais qu'il deviendrait un gars d'un point par match, puis le leader en attaque de cette équipe-là. Puis écoute, tu as parlé de David Perron tantôt, on a tout simplement relancé sa carrière, il y a un point par match cette année, il n'y a jamais personne qui aurait vu ça aller. Puis là, tu as une couple de joueurs comme ça qui sont soit des rejets ou des gars qui n'ont jamais eu leur chance sur des trios offensifs qui réussissent à faire le travail. Puis évidemment, tu as une bande de travailleurs acharnés, là, des cols bleus qui se présentent à tous les soirs. Puis il n'y a pas eu beaucoup de matchs, Dan, cette année, autant à la maison que sur la route, que les Golden Knights n'ont pas été dans le coup. Puis comme tu as mentionné, des histoires de 42-9, puis que tu gagnes quand même parce que ton goaler t'a sauvé les fesses ce soir-là, c'est presque pas arrivé non plus. Donc c'est tout un travail, mais comme je te disais tantôt, je sais pas, à un moment donné, la cloche va sonner, puis ça va se terminer le beau rêve. Mais en tout cas, pour le moment, ça continue de bien se passer pour eux. Puis j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont se positionner pour les séries d'après-saison.
Et je pense, François, que c'est une équipe qui va être encore meilleure dans 2 ans et dans 3 ans. Là, les gens vont dire ah, « la balloune de la première année va être finie, puis ils vont retomber à normal. » Parce que je regarde la façon dont cette équipe-là est bâtie, puis ils ont eu 3 choix de première ronde l'année dernière. Le défenseur Brandstrom, le Suédois qu'on a vu au championnat mondial d'hockey junior, est très talentueux. C'est un corps arrière qui va arriver dans cette équipe-là, alors que cette année, c'est Colin Miller un peu par défaut, puis des fois Shea Theodore, qui est quand même relativement jeune, à 22 ans. Quand Brandstrom va arriver, puis il va devenir, s'il devient un joueur établi, évidemment, dans la Ligue, dans 4-5 ans, cette équipe-là va être meilleure. Cody Glass leur appartient. Nick Suzuki leur appartient. Et là, j'ai pas parlé encore des choix de la saison qui s'en vient. Ils peuvent faire des transactions. Ils peuvent signer des joueurs autonomes. C'est une équipe qui, un jour, peut-être, va se retrouver avec de bien meilleurs joueurs que ce qu'ils ont là. Et là, je suis pas en train de manquer de respect pour les joueurs qui sont là. Les joueurs qui sont là performent et c'est une belle histoire. C'est une très bonne équipe de hockey pour l'instant à Vegas. Mais je pense qu'elle peut être encore meilleure.
Oh oui, puis je pense en désaccord avec toi là-dessus que puis les jeunes que tu as nommés, on a quand même, je pense, fait de bons choix. Évidemment, il reste à les développer. Mais c'est un repêchage d'expansion. Puis on verra si dans quelques années, Dan, Seattle se joint à la Ligue. Probablement que, moi, je pense sincèrement que le club d'expansion qui va arriver là va avoir une certaine pression de gagner, mais qu'on n'aura pas les mêmes résultats. Je pense que c'est quasi impossible. Puis là, j'ai dit Seattle, j'aurais pu dire Québec. Puis si c'était Québec, je pense qu'il faudrait se dire que c'est vraiment l'exception à la règle, parce que ça devait pas arriver comme ça, puis je pense que tout le monde est un peu surpris. Puis je te disais, Dan, quand tu te pratique à faire un repêchage d'expansion. Moi, il y avait une couple de gars que je trouvais intéressants. C'est genre un gros Bauer comme gardien de but, puis des gars comme ça qu'on n'a pas touché. Puis quand le jeu NHL est sorti sur console, les gens qui aimaient ça, on pouvait le faire sur console, le repêchage d'expansion. Puis bien souvent, sur les 25-30 joueurs, tu sais, t'en avais peut-être les deux tiers qui étaient différents. On saura jamais qu'est-ce que ça aurait pu donner comme résultat, mais il y a vraiment plusieurs gars, moi, que j'étais un peu surpris, qui étaient souvent peut-être des gars que, évidemment, qu'un dépisteur va voir 7, 8, 10, 12 fois, qui va se mettre à aimer pour des raisons quelconques que nous autres, on voit pas assez souvent, mais ça a donné un résultat qui est tout simplement exceptionnel et surtout très surprenant.
OK, deux choses avant de te laisser. Peter Mrazek, avec les Flyers, je trouve que c'est un excellent coup de Ron Extall. Ron Extall, souviens-toi, avant les fêtes, a été aux prises avec une crise quand les partisans des Flyers, en plein match, ont réclamé le congédiement de l'entraîneur-chef. Comme DG, il s'est tenu debout. Il a décidé de le garder. Cette équipe-là, non seulement bataille pour une place en série, mais si j'ai bien vu ce matin, si les séries débutaient ce soir, ils seraient qualifiés pour les séries. C'est pas une équipe que j'avais placée en série en début de saison. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui les avaient placés en série non plus. Ron Extall, sans dire qu'il va être nommé DG de l'année, pourrait être considéré comme DG de l'année avec le fait qu'il a gardé son entraîneur-chef. Il va chercher Mrazek aujourd'hui. Et si son équipe accède aux séries, les Flyers, je pense, vont avoir causé la surprise.
Oui, entièrement d'accord, parce que moi non plus, je les voyais pas dans les séries, surtout quand on a signé Brian Elliott. J'étais très déçu quand on a fait ça chez les Flyers. Je trouvais que c'était tellement pas la solution. On avait laissé aller Steve Mason qui avait signé à Winnipeg, puis là on se disait, bon ben, Newhart puis Elliott, ça ressemble pas mal à ce que les Flyers font depuis 10 ans, c'est recycler des gardiens de but, puis de temps en temps, quand il y en a un qui commençait à sortir de sa coquille, on l'échangeait. Donc moi aussi, je suis très surpris. Puis mine de rien, Dan, ils sont à 5 points du premier rang de la division métropolitaine.
Incroyable.
À un moment donné, on se disait, Pittsburgh, Philadelphie, c'est pas des grandes saisons.
C'est une grosse division, c'est inaccessible. Washington, Columbus, jamais ils vont pouvoir arriver avec eux autres. C'est ce qu'on disait, hein?
Oui, puis finalement, ça se passe pas comme prévu, mais je suis entièrement d'accord avec toi pour Mrazek. Je pense que c'est une chance pour Mrazek d'un peu de relancer sa carrière. Oui. Choix de 3e, 4e qui peuvent devenir des choix de 2e et 3e si Mrazek obtient un certain succès. Donc, tu sais, ça ne te dérangera pas de donner.
Il y a des conditions, c'est ça.
C'est un 2 ou un 3 s'il se met à garder les buts comme il faut. Puis honnêtement, on parlait des blessures quand même assez sérieuses chez les gardiens de but des Flyers, donc il va avoir la chance de se faire valoir. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Ça se termine aujourd'hui, Dan, Pittsburgh et Philadelphie s'affronteraient, ce qui serait fantastique avec la bataille de la Pennsylvanie. Mais je pense que ce gardien de but-là peut changer la donne. Je pense pas qu'il fasse, il fera jamais partie de l'élite, ça c'est sûr et certain, mais je pense qu'il est meilleur que ce qu'il a démontré dans les 2 ou 3 dernières années où il a été pris dans un système d'alternance qui fonctionnait pas très bien chez les Red Wings.
Parfait, un gros merci François. Et avant de te laisser, je veux juste te dire que la performance de Tessa Virtue et Scott Moore, même si toi et moi, on est des gars purs et durs et on n'est pas des grands fans de patinage artistique, je trouve que c'est pour ces événements-là qu'il faut continuer à présenter les Jeux olympiques.
Oui, puis ça, là-dessus, on pourra avoir une grande discussion, mais je vous invite à voir le reportage qui est passé à Radio-Canada il y a quelques semaines sur est-ce qu'on voit la fin des Jeux olympiques d'ici quelques années parce que c'est devenu trop gros, mais je pense que tu as entièrement raison là-dessus.
Merci François, bonne soirée à toi.
Bonne soirée, bye-bye.
OK, c'est l'heure du Dan Pool. Vous appelez Benjamin, si votre prénom débute par un L comme Las ou par un V comme Vegas, c'est le thème du jour. Vous êtes les bienvenus. 418-670-9330, Dan Pool, 75 $ en carte cadeau à gagner pour aller manger chez Saint-Hubert. Ça prend une prédiction parfaite pour le match de